Tata boom. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tatapoum, 58e édition, une émission où on écoute et où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. On retrouve une équipe reposée, gavée de dindons marrons et de foie gras, en route pour une nouvelle année de radio libre et indépendante. Et pour ce dry January, nous irons de Melbourne à Paris, en passant par Londres pour atterrir à Brest. Puisque ce soir, on parle de Amil and the Sniffer, de Lophophora, de Ivis et de Gwendoline. On va commencer tout de suite par Amil and the Sniffer et c'est Mathieu qui nous a sélectionné un premier extrait. It's mine. Amil and the Sniffer, et c'est Mathieu qui nous en parle.
Après Comfort to Me, l'album précédent de 2021 qui avait été épluché dans le Tatapoum numéro 13, voici Cartoon Darkness qui, comme le précédent, a été mixé par Nick Loney, qui est un vieux roublard de la scène punk et new wave britannique, et qui l'a également enregistré pour le coup. Et donc, depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le groupe il a continué à grandir et à rameuter des followers, et on peut voir ça dans l'évolution de la taille des salles dans lesquelles le groupe a joué à Paris, puisqu'en fait en 2018 il a commencé au Supersonic, en 2019 c'était à la Boule Noire, en 2022 c'était à l'Élysée Montmartre, et en 2024 c'était à l'Olympia. Donc, effectivement, on sent que ça grandit. Les tarifs des concerts aussi. En revanche, on peut pas dire que le groupe ait énormément changé de style. On peut d'ailleurs pas lui reprocher d'avoir retourné sa veste, même si celle-ci a désormais une manche entière qui est dédiée au hard rock. On peut écouter le morceau Pigs, par exemple. Alors, c'est peut-être un peu moins direct que les premiers enregistrements du groupe. Il y a moins de hits immédiats, ça c'est sûr. Cependant, ça reste énergique, engagé, même si on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est un groupe australien à la con comme les autres. Mais en fait, Amy Taylor, la chanteuse, et qui est quand même très emblématique du groupe, elle a un vrai discours, elle a des vrais textes. Et alors, si on peut avoir une crainte, c'est celle de pas pouvoir revoir le groupe sur scène à l'avenir, parce que après l'Olympia, qu'est-ce que ça va être, Bercy ou le Zénith? Donc ça, c'est hors de question. En revanche, il y a vraiment aucune honte à écouter cet album. Bien au contraire, il se tient très très largement et il vaut encore le coup.
Héloïse.
Je rejoins assez ce que vient de dire Mathieu. C'est un disque qui fleure toujours bon les potes, les bières bues à la pelle, la gueule de bois et les bikinis fluo, mais en moins rentre dedans, plus nuancé et plus mélodique que les précédents. En un mot, après deux albums, les Australiens tentent de se renouveler. Il en résulte une proposition musicale plus étoffée, plus groovy, qui flirte souvent du côté du hard rock, comme sur les solos du morceau que l'on vient d'écouter. Et aussi du rap, mais qui sonne toujours aussi explosif. Des titres rageurs qui laissent une large place à la voix sublime d'Amy, qui est un élément clé de la musique du groupe. J'ai trouvé pour ma part que c'était très réussi.
Cédric.
Ah ben, je vous rejoins complètement. Moi aussi, j'y suis là un peu à reculons, à vrai dire. Je n'avais pas écouté avant qu'il soit programmé dans l'émission. Bon, la faute, hein, un bandcamp incomplet, des concerts trop chers. 50 balles pour le dernier, c'était quand même vraiment cher. Une pochette provoque un peu à deux balles et un peu une impression de lassitude a priori. Et puis j'ai écouté et j'ai arrêté de faire l'enfant gâté, quoi. Finalement, c'est tout de même pas mal du tout cette affaire. On retrouve bien ce qu'on aimait avant, quoi. Finalement, le côté bourrin, pub rock, matinée de punk, et surtout donc cette voix accrocheuse, teigneuse, un peu dégueulasse dans le bon sens du terme, d'Amy. Bien sûr, ça donne un peu l'impression d'un faux groupe complètement bâti autour d'elle. Héloïse me dit que je suis un gros connard, parce que si c'était un mec, on n'en chierait pas une pendule. D'accord, Héloïse, on peut peut-être le dire autrement aussi. On part sur une nouvelle année, on est tranquille. Et donc, c'est vrai que ces titres et ces textes sont assez jouissifs, hein, quand elle s'en prend au comportement minable de mec, notamment en retournant la domination sur le dernier titre, Me and the Girls, qui conclut l'album. Par contre, elle règle beaucoup ses comptes avec les connards qui l'ont agressé sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre, mais ça fait quasiment la moitié de l'album, donc c'est peut-être beaucoup, mais finalement c'est peut-être un peu le lot de ces groupes qui font des concerts tous les deux jours et que leur vie, ils n'ont pas grand chose d'autre à raconter que cette vie-là, quoi, celle qu'ils voient sur les réseaux sociaux et celle dans les cars qui les amènent au concert. Ils vivent plus vraiment dans le monde réel par ailleurs, donc je sais pas très bien ce que ça va donner par la suite. Sinon, bon, là, l'album ressemble beaucoup au précédent, il est mieux produit, hein, vous l'avez dit, avec des titres un peu plus métal parfois, donc ça devrait plaire à Guillaume. Deux titres lents, je trouve qu'ils sont intéressants, mais qui du coup ça renforce encore ce côté de la chanteuse mise au centre, et peut-être qu'il y aura intérêt à faire un album de ce type là sur le côté, un peu comme Shannon and the Clams, qui avait fait un magnifique album solo par ailleurs, quoi. Donc voilà, des très bons titres, je pense notamment à l'excellent You Should Not Be Doing That, matinée de sax, que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc voilà, Amy, il avait encore un bon tour dans son sac, qui est un peu plus rempli de fric au fur et à mesure, quoi.
Ouais, moi j'étais comme vous, j'avais été bluffé par le précédent album d'Amy and the Sniffer quand je l'ai découvert. Une énergie incroyable, surtout celle de Amy, la chanteuse et leaduse du groupe, une chanteuse sur pile, hein, et un groupe qui fait trembler les murs et qui pourrait provoquer des éboulements de terrain, quoi, à la première écoute. Et puis on est allé en bande voir le concert dans une jolie salle avec des places très chères et des bières hors de prix. Alors sur scène, c'est effectivement impressionnant. Il y a Amil qui saute, qui bondit, qui rugit, qui tire la langue comme une sale gosse et qui finit quasiment à poil. Mais assez vite, on s'aperçoit que derrière le groupe, c'est un peu des gros balourds, quoi, qui font un blues rock un peu pâteau. Tout ça peut pas perpétuellement être compensé par le fait que la chanteuse tire la langue en sautillant et en criant. Au bout d'une heure, je m'étais presque lassé. Voilà. En mai 2024, ils avaient sorti un premier titre pour annoncer le futur album, un single, You Should Not Be Doing That. Et on voit Amil en robe de soirée, genre country, très élégante, accroupie, en train de pisser. L'album dont on parle, là, lui, il est illustré par une photo des quatre membres qui courent vers l'objectif, sauf que Amil est en tête et elle a retiré son t-shirt, elle a relevé son t-shirt pour monter ses seins. Et alors, j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire, ça. Voilà, j'arrive pas à savoir si c'est une attitude manifeste. En gros, les filles font ce qu'elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent, elles parlent fort et elles vous pissent à l'arrêt, c'est l'option 1, ou option 2, est-ce que c'est plutôt une démarche marketing, on est le groupe le plus provocateur du moment, regardez, on fait pipi et voilà des nichons, venez à notre concert, c'est 50 balles. Et c'est dans cette incertitude que j'ai écouté l'album. Bon, en fait, je vous rejoins, quoi. C'est quand même 33 minutes bien faites. Alors, Amil chante comme d'hab, la voix pleine de colère et d'énergie. Alors, je trouve que ça renouvelle pas vraiment le registre qui était leur, si ce n'est les deux échappées blues dont parlait Cédric, en particulier la chanson Big Dream, là, qui est vraiment bien. Alors, les paroles, peut-être que ça donne une indication sur la sincérité du truc. C'est souvent d'une vulgarité mais vraiment réjouissante, de Jerkin qui ouvre l'album jusqu'à Me and the Girls qui clôt l'album, qui sont vraiment ils sont grossiers, méchants, ça règle ses comptes, ça dit des trucs, voilà. Alors, sans provoquer un enthousiasme fou, moi je trouve effectivement que ça reste un bon album, c'est solide, et c'est vrai, effectivement c'est un groupe qui joue en première division grâce à son attaquante vedette. Ça reste quand même un groupe un peu limité musicalement, et peut-être qu'ils sont à leur climax aujourd'hui. Arnaud ?
Non, je suis pas complètement d'accord. Moi, j'avais bien l'impression d'avoir chroniqué l'album précédent il y a vraiment pas longtemps, alors que ça fait en effet 3 ans qu'on en a parlé. On les cite en fait assez souvent, Amil and the Cipher, dans nos différentes chroniques, donc... c'est un groupe quand même qui marque, mais moi il commençait à m'amuser, notamment l'album précédent qu'on avait beaucoup aimé. Moi j'avais réécouté plusieurs fois et commençait à me gonfler. Je les ai vus sur une très grosse scène à Rock en Seine, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, et j'avais été complètement saturé par l'écoute de, et notamment le live qui correspond absolument pas à ces aussi grandes scènes, parce que c'est au kilomètre, c'est 45 minutes de bourrin, et ça va pas du tout pour ce type d'ambiance. J'ai aussi écouté l'album à reculons, comme toi Cédric, j'ai pas voulu l'écouter, puis on l'a proposé, donc je l'ai écouté. Et non, moi je trouve quand même qu'il y a une évolution dans le son, même si c'est toujours assez marqué punk, mais il y a quand même des ambiances assez différentes. Le Jerkin et le Doing in My Head sont très mélodiques, et on cite souvent Amil, notamment pour la qualité de leur mélodie qu'ils ont pu nous prendre sur les albums précédents. Mais il y a quand même, ouais, des morceaux intimistes qui faisaient pas avant. Le Big Dream, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de hard rock. Donc je trouve quand même qu'il y a une évolution et une variété un peu plus importante sur cet album-là, qui moi m'a un peu dérouté à la première écoute, mais après j'ai trouvé quand même l'album vraiment intéressant. Et puis la démarche de Amil, moi par rapport à tes deux options, j'opte catégoriquement pour l'option 1, parce que ces textes quand même racontent un peu qu'elle en a absolument rien à foutre du regard qu'on peut porter sur elle. Et en effet, l'affiche où elle monte son cul et là où elle monte ses seins, c'est un peu pour dire que son corps lui appartient, et puis qu'elle en fait ce qu'elle veut, et on a pas grand chose à dire là-dessus, et ses textes le montrent assez bien sur cet album-là.
Guillaume ?
Ouais, je vais essayer de revenir un peu sur tout ce que vous avez dit, parce que c'est ce que je partage en grande partie. J'étais parti moi aussi pour faire l'impasse sur ce nouvel album, hein, trop de musique à écouter, donc il faut faire des choix, et je préjugeais qu'il serait forcément moins bon et que le précédent, et donc que j'en serais déçu. Et il faut dire que, comme beaucoup, je pense, l'enthousiasme qui avait suscité cet album de 2021, Comfort to Me, résonne toujours en moi et demeure d'une écoute plus qu'agréable. Je vais y revenir. De sorte que j'appréhendais un peu la suite, sachant le succès rencontré avec des salles de plus en plus grandes et effectivement offertes au groupe, qui risquait de faire perdre sa spontanéité et son énergie à leur garage punk, hein, pour dire vite. Et bien, j'ai bien eu tort. L'écoute de ce nouvel album est des plus rassurants et témoigne une fois encore de la supériorité de la scène australienne à maintenir le haut niveau qu'elle affiche depuis des années. Dans la continuité logique du précédent, ce Cartoon Darkness s'impose facilement comme un bon disque. Il faut dire qu'on y retrouve les fondamentaux du groupe, à commencer par la voix incomparable d'Amil, bien sûr, mais la grosse guitare de Martin est appréciable, des schémas de composition classiques mais solidement exécutés toujours, la facture emballante des compos, et l'essentiel est là et confirme le savoir-faire des Australiens. On pourrait lui reprocher d'être même un peu trop bien calibré pour convenir au format traditionnel de la scène rock grand public. Se mêlent en effet le morceau de ballade, hein, Bailing on Me, le morceau d'envolée, Showing Gum, le morceau énervé, It's Mine, qu'on vient d'entendre, le morceau tendre, Big Dreams. Ça va plaire, c'est sûr. Sur ce créneau, d'ailleurs, ils sont assurément aujourd'hui l'un des meilleurs, et on pourrait difficilement leur reprocher cette orientation, car même sur des morceaux simples comme Do It Do It, le groupe s'en sort très bien, c'est carré et convaincant. On pourra leur reprocher certains morceaux un peu faciles, mais sur le fond, l'album se révèle sans doute peut-être moins foufou, davantage équilibré que le précédent, mais il se montre largement, il s'impose largement comme une réussite. Donc c'est bien fait, carré, n'abusant jamais des solis, toujours avec la gouaille incroyable d'Amil qui remporte la mise à tous les coups. Il me manque juste en fait les morceaux un peu marquants au-dessus du lot comme l'était Knifey ou Guided by Angels sur le précédent album, mais j'étais loin d'être déçu par ce disque.
Je vous propose d'écouter un deuxième extrait, c'est Teeny Bikini. Et voilà, donc ça, c'était Amil and the Sniffer. On va tout de suite passer à un autre disque, c'est Lofofora, Lolofofora, qui vient de sortir un album qui s'appelle Cœur de Cible. Et le premier extrait que nous a sélectionné Héloïse, c'est Apocalypse.
Y'a les craqueurs qui crèvent au milieu du périphérique, des centrales nucléaires pour nos saloperies électriques, partout des drames existentiels et des problèmes psychologiques. On va choper le cancer à force de chier le plastique. Y'a le feu sur la mer, les nappes phréatiques sont à sec. Il faut 13 000 litres de flotte pour se faire un kilo de steak. Encore pas assez de bâtards dans la rubrique nécrologique. Non, je ne suis pas méchant, t'as vu les gens, je suis logique. Parle-moi d'autre chose, qu'est-ce que tu crois? Je suis pour rien. Des Français s'appellent Jean-Jacques. Ça pue le glyphosate, l'après-rasage et l'ammoniaque. Les orphelins du djihad préparent la revanche en Irak. Pendant que toi sur ton portable, tu tapes gang bang avec les Jacques. 50 degrés à l'ombre, c'est comment qu'on va faire avec. Plus de 100 femmes cette année vont se faire buter par leurs mecs. Les flics protègent le fric, il y a du sang sur la matraque. Devant ceux qui n'ont rien à perdre, les autres deviennent paranoïaques. Parle-moi d'autre chose, qu'est-ce que tu crois? J'y suis pour rien si le monde est pourri. T'es tellement morose, je t'inviterai pas à ma soirée d'apocalypse. Les oiseaux, jeunesse en détresse, les vieux sur des civières, je vois bien que...
Et voilà, donc ça c'était un premier extrait de Lofofora et notre cœur de cible pour présenter Lofofora, c'est évidemment Héloïse.
Alors Lofofora c'est quasiment un groupe que l'on ne présente plus tellement il est connu dans le microcosme de la scène rock'n'roll, punk et metal, considéré comme l'un des pionniers du rock fusion en France. Un groupe de metal alternatif originaire de Paris, formé en 1989 autour de Renaud Auchan, de Phil Curti à la basse, de Daniel Dessieux à la guitare et de Vincent Ernaud à la batterie. Après un nombre significatif de disques, dont je vous épargnerai la liste, le groupe revient avec son 11e album, Cœur de Cible, sorti en novembre 2024 sur le label At Home. Un 11e opus fidèle à cette ligne qui fait la popularité et la singularité de Lofofora. Un album de fusion tirant davantage vers le punk que les précédents, où les effluves de disto se mêlent aux power chords saturés de guitare, aux riffs abrasifs de basse et aux martèlements frénétiques de la section rythmique. Des mélodies rageuses, survoltées et engagées, qui dépeignent un tableau accablant de notre époque. Cœur de Cible cause ainsi pêle-mêle de dérèglements climatiques, de violences sociales, de dérives consuméristes, de l'indépendance du groupe, d'inégalités sociales, d'injustices politiques ou encore de patriarcat. Enfin, l'album témoigne également de la volonté de Lofo de se renouveler, et cela peut semblait être une gageure au bout de tant d'albums, notamment à travers le chant de Renaud ou encore un hommage aux Beastie Boys sur le morceau « Laisse pas faire ». Pour ma part, c'est un disque qui m'a un peu gênée, mais cela s'explique-t-il peut-être par le passif tout particulier que j'ai avec ce groupe quasiment aussi vieux que moi, à une année près. Lofofora, c'est peut-être l'un de mes premiers pogos, l'une de mes premières cuites et mes premières crêtes dressées au savon. Des expériences scéniques grandioses, presque tout autant que les maux de crâne du lendemain, dont je me souviens avec une certaine nostalgie, un peu comme une madeleine de Proust sonore. Las, peut-être est-ce là le signe de l'influence grandissante de Guillaume sur mes goûts musicaux, ou plus simplement de celui du temps qui passe, mais la magie n'opère plus exactement comme avant. C'est un album que j'ai trouvé très proche des 10 autres, redondant et grainant parfois avec une infinie maladresse des thématiques sur lesquelles au fond l'on ne peut qu'adhérer. En définitive, c'est un album qui reste de bonne facture et qui ravira certainement les fans, ainsi que tout le monde autour de cette table, mais qui m'a rappelé que j'avais grandi.
Ouais, 35 ans de carrière pour ce groupe qui est né quand le mur de Berlin tombait. Et moi, ça fait quand même trois décennies que ce mixte entre métal et un phrasé plus rap et assez virilisme me dit rien musicalement. Mais alors, par contre, je crois que je pourrais signer avec eux tous leurs engagements face au Front National, en soutien au Chiapas, aux côtés des Palestiniens, contre la guerre en Irak, les trucs contre les diverses politiques néolibérales et tout. Je pense qu'on a dû, sans se connaître, parcourir des centaines de kilomètres dans les mêmes manifs avec les gars de Lofofora. Mais l'écoute de cet album, c'est un peu une épreuve pour moi. La musique me parle pas, toujours pas. Le cumul de ce son métal et de cette tension viriliste, je sais pas, c'est trop. Mais le plus dur, je crois que c'est les textes, quoi. On n'est pas loin du tract ici. Alors, ok, tout le monde peut pas être Bob Dylan ni Léo Ferré, mais ça coûte rien d'essayer si on s'aligne pas. Sinon, c'est-à-dire qu'on s'aligne sur le niveau des textes de Johnny Hallyday, quoi. Je pense qu'il faut mettre un peu de poésie dans nos colères. Ne serait-ce que pour pouvoir prendre de haut nos adversaires, pour avoir une forme d'arrogance dans ces cas-là. Mais pourtant, je suis quand même content qu'ils existent et qu'ils aient un peu de succès. Parce que, l'air de rien, ils ont encore trois trucs à dire. Et puis, je crois que c'est encore important qu'on continue à dire que même les vieux détestent le Front National ou ce qu'il est devenu. Et Guillaume, toi, j'imagine que tu... T'as kiffé?
Bah moi, Lofofora, je connais mal. Hein. Je vous dirais même que Lofofora, c'est un peu comme Pascal Obispo pour moi. Un nom de groupe dont j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, sans pour autant n'avoir jamais rien écouté d'eux. Depuis au moins 20 ans, le nom m'est apparu à quelques occasions, effectivement, dans les signatures, les manifs et tout ça, sans que je sois vraiment capable d'y associer le style musical particulier auquel il se rattache. Sinon, en les associant vaguement à la scène rock alternative française, mais sans trop savoir vers où ils allaient. Autant dire que pour moi, cette association à la scène rock alternative, c'était un peu la lie du rock selon mes critères, et j'ai jamais vraiment eu envie d'y prêter l'oreille. C'est donc avec un énorme a priori négatif que j'ai lancé l'écoute de cet album, dont je ne suis assurément pas le cœur de cible. Et première surprise pour moi, c'est davantage du côté du métal que du punk que penche le groupe. ça a été un peu pour moi une surprise. Et c'est, et ça aurait pu être un bon point pour eux si ce n'était l'équivalent caricatural du punk traditionnaliste que pratiquent les Parisiens. Leur métal fusion punk synthétise en fait tout ce que je déteste dans la musique rock. Hein. Le métal FM à la Bon Jovi, mais se mêlant au punk primaire des rats. On est dans un registre musical tellement inepte que j'en perds la capacité à le formuler. C'est à 100 milieu de ce que j'écoute et surtout qui m'intéresse dans la musique que je ne trouve même pas cela navrant comme peuvent l'être les clavicules par exemple. Mais d'autant qu'ils maîtrisent leurs instruments à l'instar des René Binamé et produisent quelque chose de cohérent bien que détestable. D'autres ici s'en accommodent, mode sans doute bien mieux que moi, donc je leur laisse volontiers la parole pour en parler.
Eh bien, Arnaud, Guillaume te cède la parole.
Non, mais avant de parler, tu nous avais dit que tu n'étais pas si méchant que ça. Ouais, faut quand même pas abuser. Donc ouais, si ça c'est gentil, moi que dire. J'ai un peu la synthèse d'Héloïse et de Pierre. C'est, moi j'ai écouté ça aussi quand j'étais plus jeune. Difficile de critiquer parce qu'ils n'ont pas changé quand même de son. C'est toujours à peu près le même son depuis les années 90. Ils sont toujours intègres. C'est pas mal fait. Un peu pensé, alors pas du tout au même style, mais nostalgie quand j'écoute Burning Heads, on avait déjà chroniqué peut-être l'année dernière, et c'est des sons qui évoluent pas, et moi j'ai pas pris beaucoup de déplaisir non plus à écouter l'album, mais je vous rejoins complètement sur les textes. C'est pas quand même mal écrit, c'est vrai que ça fait un peu tract, il y a quand même des choses qui sont abordées qui sont intéressantes, il y a du fond, mais plus on l'écoute l'album au fur et à mesure, on finit par toucher le fond. C'est tellement pessimiste comme constat que moi ça m'a absolument déprimé.
Mathieu, toi qui es le plus jeune d'entre nous.
Alors moi je suis un peu surpris d'entendre parler de pessimisme. Moi je me dis, après 35 ans, le groupe il pourrait être totalement désabusé et cesser la lutte, alors que au contraire pour moi c'est un album qui reste offensif. C'est un album de non renoncement. Ce qui est pas évident, hein, dans la situation actuelle. Donc je trouve ça plutôt intéressant et plutôt noble et honorable de continuer à vouloir lutter en dépit d'un avenir que moi je suis beaucoup plus pessimiste que ne l'est le Fofora par exemple. Alors ce qui est rigolo pour cet album, c'est que le groupe indique qu'il a été reboosté par toute la nouvelle vague de groupes tels que Emil and the Sniffers, dont on a parlé tout à l'heure, ou Lambrini Girls ou Viagra Boys, donc en disant qu'il y a eu un creux, mais là ça leur permet de s'appuyer sur des jeunes groupes et se dire que peut-être ils sont plus tout seuls à lutter dans leur coin, et ce en quoi ils sont relativement optimistes. Après musicalement, il y a des choses que je trouve intéressantes. Enfin, l'intro assez psycho sur les deux, elle est assez improbable dans la discographie de Lofofora. Et voilà, moi je c'est pas forcément mon style de base, mais j'arrive à écouter du Lofofora, et y compris cet album, sans jeter mon casque par terre, et je trouve que c'est bien que le groupe continue même après 35 ans.
Allez, on en écoute un deuxième extrait, ça s'appelle Ouvrez les esprits.
Sur le sol, tu allumères les quelques parts. Voilà, surtout ne bouge pas. Ferme la, fais le mort. Dépasser les bornes, éclater les codes, tout est rétréci. Pour ton cœur, ta force, on a besoin de toi ici. En signe de riposte, au fantôme qui talonne. Ouvrez les esprits.
passion foisonne, des paroles qui déchirent comme des balles. Quand les gardiens du protocole décident du bien et du normal, t'en veux l'immeuble des envols, ils se régalent quand ça fait mal. Quel est le modèle ou le monstre, qui il est ou pour son image? Il s'agirait de ne pas confondre la lâcheté avec le courage. Le courage surnage et surmonte la lâcheté, cultive la honte pour en tirer son avantage. Dépasser les bornes, éclater les codes, tout est rétréci. Pour ton cœur, ta force, on a besoin de toi ici. En signe de riposte au fantôme qui talonne.
Et ben voilà, c'était donc Lofofora, et on va tout de suite passer au groupe suivant, c'est Ivis. Ivis qui sort un album, s'appelle Guided Tour, et Arnaud nous a sélectionné un premier extrait, qui s'appelle Mob DLA. Voilà, ça c'était Ivis avec un premier extrait de leur album Guided Tour, et c'est Arnaud qui nous en parle.
Ouais, donc c'est le troisième long format de ce quintet anglais qui est signé sur le label indépendant américain Dice Records, comme le précédent. C'est un groupe dont les membres viennent des quatre coins du Royaume-Uni, et mené par le chanteur charismatique Graham Sale, qui est originaire lui de nord-ouest de l'Angleterre, près de Manchester. L'album est produit par Joan Falco, qui est le batteur d'un groupe canadien Fucked Up, qui est aussi producteur de plusieurs groupes punk de la scène britannique, dont The Chisel, qu'on a chroniqué il y a pas très longtemps. Et les membres viennent tous de la scène hardcore anglaise. Il y a deux anciens membres de Tremors, 2010 à peu près, et l'héritage est quand même difficile à retrouver dans l'album, hormis un ou deux morceaux, on va y revenir. Chacun des membres à peu près 40 ans. C'est apparemment, sur les interviews que j'ai pu lire, le premier album qui est censé les faire vivre. Chacun a quitté son boulot récemment. Le chanteur était enseignant en filière pro. Le batteur était ancien taxi. Et ils ont quitté leur job pour assurer les tournées aux quatre coins du monde. C'est encore un groupe qui a un peu... plutôt les pieds sur terre. On peut aussi souligner que le nom du groupe Ivis, qu'on pourrait traduire un peu par extension à gilet jaune, c'est un gilet de protection en fait, Ivis.
Ivisibility.
Ouais, c'est ça. La pochette noir et blanc d'un photographe anglais, où on voit deux jeunes gars d'une banlieue industrielle, on imagine du nord de l'Angleterre. Bref, les préoccupations du groupe sont clairement sociales. Le titre qu'on vient de passer aborde les un peu plus généralement les troubles de santé mentale. Le frère du chanteur en souffre et aborde aussi la marginalisation de ces personnes par nos sociétés. Côté musical, là c'est très varié. Les références ne manquent pas. C'est vraiment entrée, plat, fromage et dessert, parce que le groupe picore un peu dans tous les styles. Avec quand même un goût quand même assez marqué pour la scène américaine, pardon. On reconnaît l'influence de Fugazi, d'Helmet, de Turnstile pour un groupe plus contemporain sur le titre qu'on vient d'écouter ici. Pas mal de titres qui sont très pop. Il y a l'ombre de U2 qui est quand même jamais très loin de l'album, enfin de ce groupe-là. C'est peut-être ça qui est un peu déroutant, parce qu'on a tendance quand même à se perdre. Il y a même, Pierre, tu vas le souligner, parce que t'as apparemment aimé le morceau. Hein. Une vraie chicane pop électronique avec un morceau Mind the Lie qui fait référence un peu à ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes, parce qu'ils écoutaient un peu aussi de jungle et de techno. Donc ils assument quand même pas mal leurs différentes inspirations, et il faut quand même un fil conducteur dans l'album. S'il y en a un, c'est je trouve la voix du chanteur, qui fait quand même assez cohérence sur tout l'album. Parce que ça permet d'aller au bout de l'écoute, on tangue pas mal à l'écoute, on a même un peu le mal de mer, et on est content que ça se termine. Et pour autant, je trouve que le voyage qu'il propose est pas inintéressant. Il y a même un goût de reviens-y. Moi, je l'ai écouté une deuxième fois. J'ai trouvé l'écoute plus facile, parce que j'étais prévenu que c'était quand même assez varié, assez différent d'une piste à l'autre. Et j'ai fini par m'attacher à ce disque que j'ai en fait écouté pas mal de fois avant de le chroniquer, et je finis par plutôt beaucoup l'apprécier, d'autant plus que j'ai pu lire que les prestations live du groupe sont très péchues, et l'énergie hardcore des membres refait surface lors de leurs prestations. Donc pourquoi pas les voir, ils passent à Paris au Trabando, sinon ils commencent à signer sur des grosses scènes pour les festivals de l'été, voilà.
Mathieu. Ben justement, Arnaud, tu en parlais. Moi, c'est un groupe que j'ai vu en octobre 2023 au Trabendo. J'avais été loin d'être convaincu. Parce que si le début du concert avait été dans une veine hardcore, cold punk plutôt intéressante, assez rapidement, il avait sombré dans la pop. Et alors je sais pas si ça doit me rassurer ou pas, puisque moi à l'écoute de cet album, dès le premier titre, j'ai entendu des assonances à la U2, mais version boy, enfin c'est pas le U2 des stades. Et effectivement, si le ton se durcit parfois, moi j'ai perpétuellement du mal avec le chant. Sans être transporté par les musiques non plus. Alors c'est bien fait, je trouve que c'est assez propre, mais en fait ça me redonne pas envie ni de réécouter l'album, ni de l'acheter encore moins, et ni de revoir le groupe sur scène. Moi j'ai été vacciné, donc je pense que je m'en passerai.
D'accord, mais tu l'as dit, Arnaud, il y a à travers la pochette, à travers leur nom, Ivis, Ivisibilité. D'ailleurs, dans un interview, il disait que c'est le vêtement de la classe ouvrière, les vestes fluo de travaux. On a des marqueurs quand on est chez les prolos. Il y a un truc qui est important et qui semble un peu la colonne vertébrale du groupe, quoi, de savoir où il se place dans la relation de classe, quoi. Alors musicalement, effectivement, c'est une sorte de syncrétisme. La liste des influences et des emprunts est énorme. On a des nappes de guitare qui accompagnent le rythme martelé de la batterie, cette voix qui parle autant qu'elle chante, qui s'agace, s'enrage autant qu'elle garde une espèce de distance élégante. Parfois, on a des beats électro, des chœurs très pop. Voilà. Alors parfois, même souvent, c'est un peu long à prendre dans les morceaux. Parfois même au bout du morceau, bah ça a pas pris. Mais quand ça marche, quand ça décolle, moi je trouve ça vraiment splendide. Tu disais, moi il y a un morceau comme Mind the Lie, par exemple, qui pour moi trouve parfaitement sa place, trouve complètement son équilibre. Je trouve un morceau quasiment parfait, quoi, un point d'équilibre entre la beauté, l'espoir, la rage et l'abattement. Et ça nous dit tout ça en même temps. Et je trouve qu'il y a des perles dans ce disque. Guillaume.
Bah non, moi j'ai pas été convaincu. Hein. La musique de Hives fait partie de celles qui me laissent indifférent. Elle a pas forcément de mauvaise qualité en soi, mais elle n'a pour moi tout simplement pas de grand intérêt. Manquant d'aspérité, je l'écoute comme j'écoute en fond sonore la playlist de France Inter quand j'épluche mes poireaux en regardant les nouvelles à la télé. Leur musique est suffisamment de bonne tenue, effectivement, pour ne pas me déplaire, mais en même temps pas assez remarquable pour que j'y prête la plus d'attention qu'elle n'en mérite, donc trop passe-partout pour moi, pour qu'elle ne m'impressionne, et donc j'ai laissé tomber très très vite.
Cédric.
Bah, un peu dans votre état d'esprit, quoi, en gros. Et, évidemment, on peut saluer ce côté working class très, très assumé. Dans les textes, par leur origine, par leur boulot, aussi par ces photos dont tu as parlé, je crois, c'est David Sinclair, le photographe, qui est un photographe de jazz, mais aussi social en Grande-Bretagne, qui fait du noir et blanc, notamment. Ils ont fait un premier titre qui avait été issu de l'album d'abord, avec une photo magnifique, avec une sorte de slogan sur le mur, sur l'amiante, où on se dit bon, là on voit à peu près où on se situe ici dans la lutte des classes. Donc tout ça est magnifique, et bon, ça fait plusieurs albums qu'on écoute deux. Je trouve que c'est toujours ça m'intéressait, cette idée de rapprocher en gros le Manchester pop et le hardcore, parce que je trouve que écouter tout un album de pop de Manchester, pour moi c'est long, ça manque un peu de rugosité, et écouter parfois tout un album de hardcore, pour moi c'est parfois long aussi, ça manque un peu de sentiment, de poésie ou je sais pas quoi. Et donc j'étais friand de ça. Alors je trouve que ça marche qu'à moitié, parce que c'est pas vraiment si mélangé que ça. C'est-à-dire il y a des titres qui sont plutôt hardcore que j'aime assez bien, notamment Drop Me Out, que j'aime vraiment bien ce titre. Les titres pop un peu moins, même si la voix, moi j'aime plutôt bien la voix, je m'y retrouve quand j'écoute, je prends plaisir à l'écouter. Moi ça m'a fait, alors U2, ouais, quand vous le dites, je trouve que c'est vrai que ça marche bien. Moi ça m'a fait penser à Cult. Oh. Un abominable groupe des années 80 qui avait fait un bel album qui s'appelait Dreamtime, un truc qu'on appelait la New Wave à l'époque, et puis qui a fait après du hardcore nul, quoi, enfin, pléonasme, on va dire. du hard rock, pardon, enfin, pas du hardcore, du hard rock de balles, quoi. Mais c'était un peu ce côté-là, un peu grandiloquent, quoi, de voix, mais je trouve que ça marche pas mal ici. Il y a la basse, quand même, qui est quand même assez importante sur l'album, qui fonctionne pas mal. Reste que, voilà, écouter plusieurs albums, j'aime bien quand j'écoute, mais j'y reviens pas, quoi. Voilà. Je sais que j'y reviendrai sans doute pas. Que... Voilà, c'était pas déplaisant.
Héloïse.
Alors, je vous rejoins assez dans ce que vous avez dit, mais je serai peut-être moins nuancée que vous. Moi, c'est un album dont je suis tombée raide dingue, et ce dès la pochette que vous avez évoqué, qui est dans une inspiration hyper sociale, voire prol, dévoile la photo en noir et blanc d'ados sur leur mob devant ces barres d'immeubles qui furent présentées dans les années 60 comme le syncrétisme du modernisme. Guide Eye Tour, c'est tout aussi brillant qu'impressionnant, tant la palette musicale des londoniens est large. Cela passe du hardcore progressif au post-punk, en passant par la Britpop, des touches de groove, voire de psychédélisme, le tout sans jamais perdre en cohérence ou en énergie. C'est un album que j'ai trouvé riche et ambitieux à découvrir, selon moi, absolument.
Eh bien, je vous propose d'en écouter un second extrait de Hives, Under the Red.
days. Understanding escapes us. We owe it to ourselves to try. We walk alone. Alone and terrified. For you, could never be there for me. Is it too late to tend the wounds from everything they've done to you? Everything you've suffered through, everything I never knew.
On va passer, pour la joie de tout le monde, à Gwendoline. Gwendoline qui sort son album C'est à moi ça. Et Cédric nous a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle Rock 2000. Voilà, c'était Gwendoline avec leur album C'est à moi ça, et c'est Cédric qui nous en parle.
Alors voilà le retour pour le deuxième album de la petite sensation française Sainte-Wève. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire qu'on tombe dans le bobo qui joue au baltringue. D'ailleurs, je vous conseille de fermer la radio une fois que j'aurai terminé ma chronique, parce que les autres ici vont vous dire à peu près ça en un peu plus long, mais en pas beaucoup plus intéressant. Donc il y a d'autres choses à faire le dimanche soir que de les écouter. Alors, parce que ça serait complètement passé à côté du truc, en fait. Gwendoline, ouais, on le sait, on l'a abondamment raconté dans les médias, c'est l'histoire de deux types de reines qui sortent des chansons sur Bandcamp à la va-vite, dans l'anonymat avant 2020, puis tout à coup connaissent un succès et sortent un album de ces titres sur Bandcamp, le premier album qui s'appelait « Après ses gobelets » en 2020. Ils exhument un nombre impressionnant de salles, connaissent le succès et les critiques des médias bon chic, bon genre qui les adulent. Pourtant, ils n'avaient rien pour plaire, un duo, Michael Olivette et Pierre Barrette. Déjà, il faudrait se demander quand même comment on peut encore s'appeler Pierre quand on a moins de 50 ans, mais enfin bon. Une musique minimale, boîte à rythme et synthé de fond, des textes chantés, parlés, phrases courtes, percutantes, ironiques, qui racontent la France même pas d'en bas, plutôt celle d'à côté. Et on se demandait comment ils allaient passer le cap de l'anonymat blague du premier album au succès qu'ils rencontraient. Finalement, en conservant un peu la même recette, hein, on fait tout soi-même, donc c'est pour ça que sans doute ça s'appelle « C'est à moi ça », cet album. Mais ils avaient des arrangements plus travaillés, voire presque dansants, comme sur le titre qu'on vient d'écouter, avec un passage par Born Bad, hein, toujours dans les bons coups de la synthwave pop, un déménagement à Brest, hein, on quitte Rennes et sa new wave classieuse pour Brest et son punk prolétarien. Une sorte de collectif de la grande triple alliance internationale, mais de l'Ouest pour ce coup-ci. Les textes sont toujours dans l'ironie, la blague, le sens de la formule qui fait mouche, des voix toutes mignonnes et des textes tous crevards. Mais on abandonne un peu le côté mépris facile, désenchanté à la Orelsan qu'on rencontrait sur le premier album, pour mieux raconter le fatalisme alcoolisé et la critique sociale. Il y a une sorte de haine de la bourgeoisie qui est rarement racontée à ce niveau, parce qu'à mon avis, c'est sans doute la bande-son de l'anti-macronisme, cet album. Si les vulves assassines s'écoutent en manif, celui-ci s'écoute en solitaire, et on a peut-être besoin de ces deux types de manière d'écouter l'anti-macronisme. À mon avis, on est assez loin de la posture et du plan com, on l'entend assez bien aussi dans les interviews, il la ramène pas. Deux types arrivés là, par hasard, sans doute. Alors on les rapproche souvent dans les interviews de Joy Division, là j'avoue que j'ai du mal un peu à saisir le rapprochement. Moi j'y vois plutôt une sorte de mélange dans la démarche entre Kurt Cobain, Miossec et Didier Super. Alors, je sais pas s'ils apprécieraient trop les rapprochements, mais j'y vois ça. J'imagine que Colombet doit se demander quand même pourquoi ça marche avec eux finalement. Quoi. Voilà, vous pouvez éteindre la radio.
Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de Gwendoline?
Pas beaucoup de bien en fait. On n'est pas très éloigné. Moi, j'ai écouté Lofo et Gwendoline juste à la suite. Et musicalement, alors c'est très différent certes, mais c'est quand même tout aussi acerbe sur notre époque. Ouais, je suis d'accord avec toi, quand même, Cédric. Les textes sont peut-être moins violents que le précédent, mais moi, je les ai découverts en 2021 lors de leur passage au Transmusical, parce que c'est ça qui les a fait exploser. C'est quand même assez rigolard d'avoir un groupe qui sort un album en 2017 qui ne marche absolument pas et qui sort le même album 4 ans plus tard et qui en effet explose. Audi RTT, moi j'avais beaucoup aimé ce titre sur le premier album et ils ont creusé très profond le sillon quand même qu'ils avaient commencé à creuser. Les textes, en effet, pas premier degré, mais quand même très sarcastiques, voire nihilistes, qui tapent quand même sur tout le monde. Les prolos en prennent un peu pour leur grade sur pas mal de, même si il y a quand même vraiment plein de degrés dans ce qu'ils disent. Ils tapent en effet sur les bourgeois, les puissants, les smicards eux-mêmes, ils sont beaucoup d'autodérision sur ce qu'ils sont, puisque en effet, ils se considèrent comme pas grand-chose, ils sont arrivés là par hasard. Mais bon, les textes ont la fin du monde sur on va tous crever, encore une fois, là on l'a entendu, ils doivent dire ça 3-4 fois, ça revient sur plein de morceaux. Après l'écoute de l'Holophora, moi je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol d'entendre qu'on va tous crever, parce que ça me saoule. Et c'est des textes, moi, qui m'en parlent en fait pas beaucoup. Je trouve que c'est plus quelque chose qui doit parler à des grands ados, des jeunes adultes. Texte sur les bitures à 8h du mat, ça me fait pas grand-chose. C'est parfois rigolo, mais le timbre quand même de la voix au bout de deux albums commence vraiment à me gonfler.
Mathieu, comment tu te sens?
Alors, moi, je me sens bien à partir du moment où on a arrêté la musique. Parce que pour moi, cet album, je considère un peu comme l'album Born Bad du mois, dans le genre, ah bah regardez comme on est décalé, hein, un peu entre le Wild Classical Music Ensemble et Colombé, hein, dont tu parlais, c'est
deux excellentes références.
Mais oui, les trucs insupportables dans Tatapoum. Donc, alors, effectivement, si ça fait de l'effet sur certains, tant mieux pour eux, mais chez moi ça donne juste envie de passer à l'album suivant, et pour moi le degré de Tatapoum compatibilité, il est à peu près nul.
Ouais. Alors Gwendoline, ouais. Cédric, en parlant de Colombet, il y a quelques mois, l'album La Fenêtre Sombre, album qu'il avait lui aussi, comme moi, beaucoup apprécié, il disait quand même qu'il espérait que c'était sincère. Et ça m'a un peu inquiété en écoutant cet album. Ça m'a surtout rappelé un truc comme Fauve, qui sentait un peu trop la démagogie, l'empathie surjouée. C'était surtravaillé pour être pris au sérieux. Enfin, c'était trop marketé, et je me suis dit, en écoutant Gwendoline, pourvu que ce soit pas deux gars d'une école de commerce qui font ça pour s'amuser, et que tout ça soit sincère. Musicalement, c'est froid, c'est carré, franchement ça ressemble à Brest, quoi. C'est de la musique pour illustrer là où ils vivent. La simplicité musicale, une sorte de cold wave lofi, ça marche, parce que finalement c'est un peu annexe, ça laisse toute la place au chant pour créer, raconter un univers, raconter la vie de deux gars un peu losers, un peu alcoolos, un peu paumés et très provinciaux, et leur quotidien, ils trouvent les mots pour nous les raconter par petites touches, genre comme quand ils nous parlent de pizza indus et Pâques de 16, on imagine tout de suite la soirée qui vont passer. Et moi je trouve qu'il y a une certaine poésie, il y a une certaine efficacité dans leur manière d'écrire. Moi, je trouve que Gwendoline, ils sont bons quand ils nous parlent de ce qu'ils connaissent. La loose, les cuites, les gueules de bois, la misère affective, les fins de mois difficiles, le RSA. Moi, je trouve que ça me parle. Je trouve qu'ils arrivent à mettre des mots sur cette manière-là de vivoter pour eux. Par contre, bon, je trouve ça un peu plus raté quand ils veulent nous parler de la bourgeoisie. Par exemple, le sang de papa qu'a sélectionné Cédric après, où ils mélangent un peu tout, les beaufs de droite, les petits patron et la grande bourgeoisie, mais surtout, au moins, ça dit un truc, ça en dit plus sur leur haine de classe, ce qui les anime, que leur haine de la bourgeoisie elle-même. Et puis surtout, ils nous disent qu'aucune histoire ne mérite d'être vécue si elle ne se vit pas avec une canette de 8-6 dans la main, et moi je trouve que c'est une très jolie morale. Et pour fêter ça, je vous propose d'écouter deuxième et dernier extrait de Gwendoline, justement le sang de papa.
Moi je sais comment voter, moi je sais comment me droguer, moi je vais vous entuber, moi je vais vous faire trimer, parce que je veux bien vous parler toute la journée à la télé. Moi je sais comment gagner, comment vous écraser, pire qu'un écolier qu'on a martyrisé. J'ai pas choisi mon corps, c'est le sang de papa et maman. Pour mes 3 ans, assuré d'avoir des belles dents, j'arrêterai pas l'école à 16 ans. La réussite est dans mon code génétique, plus d'espérance de vie que tous les pauvres de ce pays. J'ai rencontré une fille hier soir au rallye. Faudrait baisser le SMIC et supprimer les APL. Faudrait armer les flics qu'ils tirent à balles réelles. J'achète des apparts que je loue aux étudiants chaque année, j'augmente le prix. Je vais banquer leurs parents. J'ai choisi le camp. C'est le sang de papa et maman. C'est le sang de papa et maman. J'ai pas choisi mon corps. C'est le sang de papa et maman. See you.
approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, c'était Tatapoum épisode 58 avec plein de chroniqueurs qui n'avaient pas oublié leurs notes. C'était une émission enregistrée avec un public, avec ce soir donc la fine fleur de la critique rock, Arnaud, Cédric, Héloïse, Guillaume, Mathieu, Bibi et Marion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Tatapoum. D'ici là, bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche. Ciao.